bien, ce matin, je voudrais vous inviter à regarder une autre reine, Marie. Et le thème de cette année, ici, c'est « Marche avec Marie ». Celui qui a été abordé tout au long de cette semaine. Alors, je vais essayer de continuer ce cheminement et peut-être de retrouver ces 6 années au cours desquelles j'ai voulu ici parler en tant que recteur de cette basilique, parler de cet amour de Notre-Dame de Buglos pour tous les Landais, mais aussi de cet amour que les Landais portent à Notre-Dame de Buglos. Si l'on veut parler de Marie comme accompagnatrice de l'Église d'aujourd'hui, avec l'Église d'aujourd'hui, je pense qu'il nous faut dire d'abord ce qu'est l'Église aujourd'hui, comment elle se présente. Et nous allons essayer de le faire sans trop édulcorer. Ce qui fait que nous allons rechercher après dans l'Écriture pour se dire, mais qui est Marie? Que savons-nous d'elle exactement? Et nous dépasserons sans doute ce qu'on nous a dit, notre imagination, soit que nous la voyions comme une mère toute puissante, soit que nous préférions nous adresser à elle plutôt qu'à Dieu. Car nous disons, et moi le premier, elle au moins, elle peut me comprendre. Donc, il ne faut pas, mes chers amis, que notre dévotion à Marie nous fasse dire des erreurs sur Dieu. Pour enfin, et ce sera mon troisième point, une fois tirée au clair la mission de Marie pour le monde, nous pourrons nous demander comment Marie peut cheminer, marcher avec nous. Alors nous commençons par regarder l'Église d'aujourd'hui. Vous savez que l'Église a 3 caractéristiques. Elle est le peuple de Dieu. Elle est un peuple sauvé par la croix du Christ en qui il a mis sa confiance, sa foi. C'est-à-dire un peuple qui n'est pas condamné à la mort. Et je crois qu'il ne faut jamais le perdre de vue. Un peuple qui n'est pas condamné à la mort, mais promis à cette vie qui ne passera jamais. Ce qui fait que le troisième point, c'est un peuple qui est nourri, qui est vivifié par l'Esprit Saint. Voilà donc les 3 points importants qui caractérisent l'Église d'aujourd'hui. Alors, à ce sujet, le Concile Vatican II disait dans sa constitution Lumen Gentium, tout ce qui croit au Christ, voilà, Dieu a voulu les appeler à former la Sainte Église. Je redis. Dieu a voulu les appeler à former la Sainte Église qui s'est manifestée grâce à l'effusion de l'Esprit Saint au terme des siècles se consolera dans la gloire. Alors, si j'ai retenu ce texte, c'est que, à mes yeux, il nous montre combien Dieu, dans son amour, a voulu créer un peuple. Un peuple qui l'a sauvé, qui est le signe pour le monde entier que l'homme est sauvé. Alors c'est bien de l'ordre de la foi sûrement, car cela n'a rien d'évident ni rien de visible. Mais, parce qu'elle est voulue, aimée, sauvée par Dieu, alors, on peut dire que l'Église est sainte. Comme nous le disons tous les dimanches, je prends l'Église une sainte catholique. Et en cela, à nous de comprendre que Marie, dans ce peuple-là, vit dans ce peuple-là, marche avec ce peuple-là. Mais allons plus loin. Cette Église a, et c'est le problème, elle est formée d'hommes limités, d'hommes pécheurs, mais pécheurs pardonnés, certes, pécheurs toujours. C'est nous. Nous trouvons là toutes les limites que nous entendons souvent au sujet de l'Église. Nous lui reprochons même pas bien des défauts, des limites de ce que nous vivons, nous chrétiens. Et plusieurs nous font entendre, s'adressant à nous, ce qui est vrai, c'est que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Cependant, dans ce peuple pauvre, limité, pécheur, dans ce peuple-là, Marie nous est proche, même si elle n'a pas commis de péché. Alors, pourquoi Dieu veut-il cette Église? Mais pourquoi? Dieu, et je crois que c'est important, veut cette Église, non pas pour elle-même. Il veut cette Église pour le monde. Elle existe pour le monde et non pour elle-même. Et elle doit rayonner la figure du Christ face au monde. Elle est là pour dire à tous les hommes, vous êtes sauvés, ne vous découragez pas. Vous êtes des sauvés. Et là encore, le Concile s'exprime. Cette solidarité avec le monde fait donc de l'Église une réalité, vous le sentez, très concrète, très réelle. Mais une réalité qui change au cours du temps. Car le monde change. Alors à l'Église de savoir s'adapter, à l'Église de savoir changer elle aussi. L'Église d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec l'Église du 5e siècle, ou avec l'Église du 19e siècle, ou même du 20e, disons-le. Ce qui fait que sûrement, son lien avec Marie n'est pas tout à fait le même, car à chacune des époques, elle a son lien. Et si Marie est de façon universelle un guide pour l'Église, sans doute l'Église ne s'en inspire pas toujours de la même manière. Alors, ne rêvons pas d'une Église figée, d'une Église qui est toujours la même. Non. L'Église s'adapte au monde dans lequel elle est. Alors, comment pourrait-on caractériser cette Église de aujourd'hui? Elle traverse une crise, c'est banal de le dire. Hein. Par exemple, la baisse de la pratique religieuse. Alors, les assemblées dominicales, la montée des obsèques civiles, je regardais le journal ce matin, le peu d'enfants catéchisés, la crise des vocations, bon, etc. etc. L'Église, donc, est touchée en plein cœur. Et qui plus est, elle est touchée, me semble-t-il, par l'individualisme. Vous savez, mon père, moi je suis croyant, mais pas pratiquant. C'est ce que nous entendons notamment lorsque nous rencontrons des familles endeuillées et que nous arrive de parler du défunt, où il était croyant, hein, ben, il n'était pas pratiquant. Bon. Alors, peut-être que chacun fait sa religion à sa façon. Que l'Église, donc, a perdu son autorité. Mais il faut dire, je crois, plus profondément que cette crise est liée aux grandes mutations vécues dans le monde depuis des dernières décennies, comme le chauffage, le chômage, l'insécurité, la précarité, la xénophobie, etc. Cette situation est éprouvante. Éprouvante pour toute notre société. Et alors, c'est là où nous avons ce sentiment de vivre, celui de la fragilité, celui d'une fragilité qui est désespérante, certains jours. Et on se décourage. Nous sommes, oui, mais oui, nous sommes des êtres humains fragiles ou fragilisés dans cette société elle-même fragile. Alors, l'Église est affectée par tout cela. L'Église est marquée par tout cela. Et nous devinons toutes les difficultés, vous le savez, toutes les difficultés qu'elle rencontre quand il s'agit de transmettre le dépôt de la foi qui nous vient des apôtres. Ce qui fait que dans ce contexte-là, l'Église éprouve un besoin des plus urgents de se mettre à l'écoute de la parole, de se laisser transformer et d'aller au cœur de la foi. Nous sommes comme acculés à nous centrer sur l'essentiel et à laisser tomber ce qui était trop lié à une culture aujourd'hui dépassée, à nous centrer, et je crois que c'est le secret là, à nous centrer uniquement, à nous centrer sur Jésus-Christ. Mais Marie peut nous y aider. Marie a été, si vous remarquez bien, toute centrée sur le Christ. Marie nous est d'un grand secours. Mais qui est-elle? Bon, je vais sortir des banalités que vous connaissez. C'est une femme juive de son temps qui connaît, qui médite l'Écriture, qui accomplit la loi. On le constate notamment quand il y a la présentation au temple ou lors du pèlerinage à Jérusalem. Et elle vit dans l'attente du Messie. Oui, ce qui frappe le plus quand on regarde dans l'Évangile ce qui est dit de Marie, c'est sa discrétion. Marie parle très peu. Je me méfie quelquefois quand on me dit que dans tel lieu d'apparition, Marie a parlé. Peut-être pas la même. Alors, ce qu'elle dit. Premièrement, je vais donner trois points, quatre points. La foi et l'obéissance de Marie. La foi et l'obéissance de Marie. Ainsi, à l'Annonciation, on est frappé par l'écoute de Marie. On la sent, mais comme disponible à ce qui est dit. Elle cherche à savoir, à comprendre comment cela va-t-il se faire. Mais elle fait confiance à ce qui lui est dit. Et là, elle acquiesce. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Autrement dit, par son attitude, Marie manifeste une foi profonde, une confiance très grande qui se met à l'écoute et qui accepte de servir. D'ailleurs, Élisabeth, sa cousine, lui dira « Bienheureuse, celle qui a cru. » Alors, à sa suite, avec Marie, nous aussi, vivons de la foi, vivons de la confiance en Dieu. Cette foi, mes amis, qui peut transformer le monde. J'ai dit que Marie, c'est le deuxième point, sait se mettre à l'écoute. Et nous la voyons souvent. Elle gardait toutes ces choses dans son cœur et elle les méditait. Et oui, elle gardait les événements. Elle les méditait. Elle essayait de comprendre, bien qu'elle soit déroutée certains jours. Mais je retiendrai ceci, que Marie est toute intérieure. Tout ce qui se passe trouve un écho chez elle. Elle sait confronter ce qu'elle vit avec la parole de Dieu. Elle réagit avec sa foi. Alors, mais nous aussi, à sa suite, soyons à l'écoute de la parole de Dieu. Une parole qui change, une parole qui améliore tous nos rapports humains. J'en suis intimement convaincu. Retrouvons la parole de Dieu. Et le deuxième point. Un autre point, un autre mot pour dire l'attitude de Marie, c'est l'obéissance. En accueillant la parole qui lui est dite, elle acquiesce. Elle accepte le projet de Dieu transmis par l'ange. Elle se met dans une attitude profonde d'obéissance à la volonté de Dieu, qu'il ne soit fait selon ta parole. Et c'est là que nous saisissons l'importance de cette attitude qui nous sauve en permettant la venue du Seigneur. Mes amis, obéir, oh, ce n'est pas à la mode. Et pourtant, nous voyons que l'obéissance à Dieu, que l'obéissance à l'Église construit l'humanité. Et je vois dans les paroisses où je suis, je vois, on refuse d'obéir. Mais pourquoi? Mais pourquoi on n'obéit pas? Alors ça sera des raisons farfelues. Bon, apprenons à obéir nous aussi. Soyons humbles. Ça c'est le premier chapitre, la foi et l'obéissance de Marie. L'autre, c'est Marie, mère de Jésus. Par cette foi, par cette confiance, par cette disponibilité, par cette obéissance, par cette humilité qui lui font accepter en toute simplicité la volonté de Dieu, elle devient la mère de Jésus. Elle le donne au monde. Alors nous la voyons dans l'Évangile complètement déroutée par les agissements de son fils. Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Mais nous la voyons passer cette épreuve au temple de Jérusalem. Puis, quand son fils se met à parler aux foules et à guérir, elle le cherche avec d'autres membres de sa famille. Mais elle ne comprend pas. Elle a peur peut-être, parce que son fils est considéré un peu comme un fou. Elle se heurte à cette réalité. Mais si tu es réalisé. Oui, elle a accepté de perdre son fils. Et elle est là, au pied de la croix. Alors nous sommes, moi le premier, très impressionnés par une telle capacité de s'effacer, d'entrer dans la mission de son fils. Mais n'est-ce pas dans cette attitude-là, grâce à cette attitude-là, que le monde sera sauvé par la mort du Fils? Alors, nous aussi, efforçons-nous de nous effacer devant Dieu. Soyons discrets, comme Marie l'a été. C'était le deuxième paragraphe. Troisième, eh bien, Marie, elle est disciple de Jésus. Elle devine donc progressivement le mystère de son fils. Et elle sera la première à inciter les autres à le suivre. Tout ce qu'il vous dira, vous le ferez, dira-t-elle à Cana. Alors si on regarde bien le texte, on voit Marie au début des récits. Elle est présente parce qu'elle a été invitée, comme les autres. Mais à la fin du récit, elle repart avec Jésus et ses disciples. Elle est là. Elle fait partie du groupe des disciples. Elle est peut-être, comme ça nous arrive de le chanter, la première des disciples de son fils. Dans les Actes des Apôtres également, nous avons Marie, nous la retrouvons en prière après la résurrection de son fils. Elle est en prière au Cénacle, au milieu de des apôtres. Et elle prie avec eux. C'est le chapitre 2 du livre Actes des Apôtres. Et il prie en attendant la venue de l'Esprit Saint. Cela résume sans doute toute la vie de Marie, une vie remplie par la prière. Et la suite, on ne la sait pas, on ne parlera pas d'elle le jour de la Pentecôte, mais nous pouvons penser qu'elle était là aussi. L'Esprit Saint est venu sur elle et la puissance du Très-Haut l'a couverte de son ombre. Pourquoi pas? Pas uniquement à l'Annonciation, mais aussi à la Pentecôte. Autrement dit, Marie, mes amis, elle peut nous aider à devenir disciples de Jésus. Et je termine par cela, ce deuxième point. Marie, la Vierge Immaculée. Bon, ce n'est pas ainsi formulé dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas ainsi formulé. Mais si l'Église a retenu la virginité de Marie, c'est pour signifier d'une façon éminente, pour signifier le don total d'elle-même à Dieu. Le don total d'elle-même à Dieu, sans retour, sans repliement. Elle s'est entièrement donnée à Dieu. Et sa vie était entièrement vouée à son fils et à sa mission. Elle n'a vécu que pour cela, pour accomplir le dessein de Dieu. Et ce qui fait toute sa dignité, et ce qui lui donne une place très grande, éminente, dans l'Église. Alors, nous l'appelons l'Immaculée Conception parce qu'elle est toute donnée, toute ouverte à Dieu. À nous de la contempler. Et l'Église, dans sa réflexion au cours des âges, en est venue à penser que Marie, la pleine de grâce, avait été comblée, mais dès l'origine avait été comblée de grâce pour préparer sa mission. Oui, le salut donné par la vie, la mort et la résurrection de Jésus lui a été donné par avance. Pourquoi ? Parce qu'elle allait devenir, dans le projet de Dieu, la demeure du Fils du Très. Donc, voilà, très rapidement, ce que l'Évangile, ce que le Nouveau Testament nous dit sur Marie. Alors, et ça sera le dernier point, Marie est un modèle pour l'Église. Marie est en quelque sorte notre modèle. Marie, bien, elle nous prend par la main et nous marchons avec elle. Et les modèles en quoi ? Marie est d'abord modèle d'incarnation. Ça veut dire quoi ? À savoir, incarnation, il y a le mot chair. Ce qui veut dire que ce qui est humain dans l'Évangile, ce n'est pas du déguisement. C'est Marie qui a permis l'incarnation. Elle a accueilli le Fils de Dieu pour lui donner la chair. Et en cela, par cet accueil, par cette formation en elle, elle devient modèle pour nous. Invitation à entrer résolument dans le monde avec elle. Car c'est dans notre culture que vient le Christ. C'est Marie qui nous apprend que le Christ vient dans notre vie ordinaire. Et on le rencontre ici, maintenant, tout à l'heure, et non pas ailleurs et autrement, comme on l'entend quelquefois. Non, c'est dans notre vie de tous les jours que le Christ est présent. Ce qui m'amène à dire ceci. Est-ce que par hasard, je ne serais pas appelé à vivre une vie de famille qui est bien souvent source de souffrance, notre croix quotidienne, qui est aussi source de bonheur? Mais cette vie familiale, est-ce que je ne suis pas appelé à la vivre pleine? Ensuite, de vivre avec les petits-enfants, arrière-petits-enfants, à cette jeunesse, avec toutes ces questions, ces angoisses, ces épreuves, ces enthousiasmes. Est-ce que je dois me taire uniquement? Est-ce que je dois les ignorer? Ou alors les écouter, les laisser parler avant de donner des réponses. Enfin, vivre la vieillesse, vivre le handicap, la maladie, mais le vivre vraiment, le vivre profondément, réellement. Bref, pour dire que chacun, me semble-t-il, est appelé à trouver dans sa propre vie de tous les jours, ce à quoi il aimerait peut-être échapper. Cependant, c'est là le lieu où Dieu nous attend pour habiter avec nous. Donc, pour que notre vie soit habitée par le Christ, il nous faut tout simplement que notre vie soit habitée par nous-mêmes, nous acceptions tels que nous sommes. C'est le premier point que je voulais dire dans ce troisième paragraphe. Marie, qui est le modèle de l'incarnation, Marie qui me renvoie toujours à ma propre vie. Ensuite, Marie, me semble-t-il, est le modèle de foi et d'espérance. Vous le savez, elle a cheminé, je l'ai déjà dit tout à l'heure, elle a cheminé dans la foi. Tout n'a pas été évident pour elle du premier coup. Et la foi, c'est un chemin. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir dans la foi. Et c'est dans la mesure où l'on compte sur le Seigneur qu'on le découvre. Alors, nous sentons bien que cette attitude ne nous est pas naturelle. Tant que tout va bien, oh, c'est parfait, nous savons vivre dans la foi. Il n'y a pas de problème. Et voilà qu'un jour arrive une épreuve. Alors, plus rien n'est évident. Et c'est peut-être là que nous avons besoin de l'appui de Marie, mais pour tenir, pour continuer d'avancer et d'avancer dans la foi. Marie, c'est le modèle de cette foi qui reste debout, qui tient face à la souffrance et au mal, qui est au pied de la croix et qui continue de vivre dans la confiance. Stabat mater. Alors à nous d'accepter avec Marie un esprit de soumission. C'est peut-être facile à dire, mais je crois qu'il nous faut le dire, d'accepter le glaive des souffrances qui perce notre âme avec Marie. D'unir nos peines à celles de Marie, qu'on peut bien appeler la mère des affligés, car qui l'a été pour qu'elle. En notant ceci, la très sainte Vierge était déjà rendue sur le calvaire lorsque Jésus est arrivé, chargé de sa croix. Oui, Marie, elle était là déjà, mère de Jésus, la plus tendre des mères. Elle était là pour son fils. Et en cette qualité, je crois que cette attitude de foi est particulièrement importante pour notre monde d'aujourd'hui. Vous ne croyez pas que l'homme ne croit encore en lui-même, qu'il croit uniquement en sa technique, qu'il croit uniquement en lui. Je crois qu'on est en train de toucher déjà le fond de cette conviction. Donc, cet homme-là, il est bien difficile de faire confiance à quelqu'un, de s'en remettre à une autre de sa vie. Et nous, les chrétiens, nous avons à témoigner de cette confiance à un Dieu qui est présent à notre vie. Nous avons à dire à notre monde que nous ne sommes pas seuls dans ce monde-là. Dieu est avec nous. Marie est avec nous, comme elle l'a été au pied de la croix. Alors, oui, nous sommes appelés à une foi, mais pas superficielle, qui n'est plus superficielle, mais à approfondir le mystère d'un Dieu d'amour qui se révèle à nous comme un Père, comme un Fils, comme l'Esprit. Et, vous le disais-je tout à l'heure, les amis, à tout centrer, tout, sur le Christ lui-même. Et ce Christ, c'est Marie qui nous l'a donné. Modèle de foi et d'espérance. Et je vais terminer par ça. Marie, modèle de prière, modèle de ce qui garde la parole. Marie, modèle de la vie intérieure. Marie nous est présentée une seule fois en prière, je vous le disais tout à l'heure. Mais il nous est dit qu'il se retrouvait régulièrement au temple, que c'était une prière assidue, ce qui signifie qu'au Cénacle, avec les apôtres, dans l'attente de l'Esprit Saint, elle était là. Elle était avec eux. Et de noter que sa prière, ce n'est pas uniquement une prière personnelle, c'est une prière collective. Et j'ai même envie de dire, et si c'était ça, la prière, un acte d'église, le rassemblement d'une communauté. Et dans ce rassemblement, Marie est là. C'est le lieu de l'accueil de l'Esprit Saint qui nous fait grandir dans la foi et qui va faire de nous des missionnaires. Ce que nous avons entendu, nous ne pouvons pas le dire. Nous sommes comme envoyés, motivés. Alors priez. Priez, c'est rencontrer le Christ. Prier, c'est écouter sa parole. C'est, si vous voulez, s'imprégner pour vivre. Prier, c'est garder dans son cœur ce qui permet de méditer sur l'action de Dieu dans notre vie. Par exemple, le peuple d'Israël fait sans cesse mémoire des merveilles de Dieu accomplies dans son histoire. Eh bien, nous aussi. Je crois que nous sommes appelés à ruminer, à ressasser en nous toutes les rencontres que nous avons faites et qui nous disent quelque chose de l'amour de Dieu. Et c'est cette mémoire qui permet, qui va nous permettre de chanter les louanges de Dieu. C'est cette mémoire qui va nous permettre peut-être de reprendre le Magnificat de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Et pour cela, vous le devinez, et je veux le dire moi-même au Seigneur, mais il faut prendre le temps. On est très pressé. On a tant de choses à faire. Alors il nous faut prendre le temps pour trouver les traces de la présence de Dieu. Alors ce n'est pas naturel, bien sûr, mais c'est à nous de la favoriser, de le favoriser, ce temps-là. Et quand nous ruminons tous ces événements, quand nous redisons tout ce que nous relisons, ce que nous avons vécu, c'est plutôt, oh non pas, pour entretenir une rancœur, une colère, une jalousie, non. Ça existe. C'est en nous. Je vous disais au début, mais nous ne sommes pas des êtres parfaits. Mais la foi nous invite à aller plus loin. Elle nous invite à aller plus loin, à rechercher dans l'événement sait, ou une meilleure connaissance de nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on va découvrir que Dieu était là. Tu étais là, Seigneur, et je ne le savais pas. Alors cette mémoire que j'entretiens par ma prière, par ce temps volontaire pour m'arrêter, cette prière, cette mémoire, elle est capable, figurez-vous, de nourrir notre espérance. Elle est capable de fortifier notre confiance. Puisque Dieu était là, il le sera encore. Et il le sera demain. Voilà. Ce qui permet de tenir dans les difficultés et de ne pas se laisser abattre, mais au contraire de trouver force et dynamisme. Alors, j'arrête là. Pour conclure, je nous invite à garder dans notre cœur, à faire mémoire, à nous souvenir, à faire une relecture de tout ce que nous vivons. C'est là toute la force du témoignage de ceux qui veulent bien nous dire leur expérience de foi. Mais c'est ce dont on a fait l'expérience qu'on peut mieux le parler. Et c'est là, dans cette mémoire, dans ce temps de silence, que s'enracine notre mission. Et Marie nous en montre le chemin. Alors, pour conclure, je vous ai imprimé un texte que je trouve particulièrement beau. Vous pourrez l'emporter chez vous. Et vous pouvez le relire. C'est un père mariste, François Marc, qui a écrit pour une église mariale. Pour une église mariale. Alors, maintenant, vous pouvez distribuer les feuilles, là. Voilà, c'est un texte qui est apparu dans le journal La Croix le 11 mai 96. Les autres papiers, vous n'avez qu'à les laisser à l'entrée de l'église, s'il y en a qui veulent s'en servir. S'y servent. Je vais lire ce texte. Je voudrais plaider pour une église mariale. Non pas une église qui multiplie les processions ou les bénédictions de statues géantes, mais une église qui vit l'Évangile à la manière de Marie. L'Église mariale suit Marie dans la montagne et part avec elle à la rencontre de la vie. Elle rend visite aux femmes et aux hommes, et au-delà des stérilités apparentes, elle est à l'affût de ce qui naît, de ce qui est possible, de la vie qui palpite à nous. L'Église mariale se réjouit, elle chante. Au lieu de se lamenter sur son sort et sur les malheurs du monde, elle s'émerveille de ce qui est beau sur la terre et dans le cœur des hommes. Elle y voit l'œuvre de Dieu. L'Église mariale, c'est qu'elle est l'objet d'un amour gratuit et que Dieu a des entrailles de mère. Elle l'a vu, Dieu, sur le pas de la porte, guetter l'improbable retour du Fils. Elle l'a vu se jeter à son cou, passer à son doigt l'anneau de fête et organiser lui-même la fête des retrouvailles. Quand elle feuillette l'album de famille, elle voit Zachée sur son sycomore, Matthieu et les publicains, une femme adultère, une samaritaine, des étrangers, des lépreux, des mendiants, un prisonnier de droit commun sur son poteau d'exécution. Alors, vous comprenez, l'Église mariale, elle ne désespère de personne. Elle n'éteint pas la mèche qui fume encore. Quand elle trouve quelqu'un sur le bord de la route, blessé par la vie, elle est saisie de compassion. Et avec une infinie douceur, elle soigne ses plaies. Elle est le port assuré et toujours ouvert, le refuge des pécheurs, Mater miséricordiae, la mère de miséricorde. L'Église mariale ne connaît pas les réponses avant que les questions ne soient posées. Son chemin n'est pas tracé d'avance. Elle connaît les doutes, les inquiétudes, la nuit, la solitude, et c'est le prix de la confiance. Elle participe à la conversation et ne prétend pas tout savoir. Elle accepte de chercher. L'Église mariale habite à Nazareth dans le silence et la simplicité. Elle n'habite pas au château. Sa maison ressemble à toutes les autres. Elle sort de chez elle pour parler avec les autres habitants du village. Elle pleure et elle se réjouit avec eux, mais jamais elle ne leur fait la leçon. Elle écoute, surtout. Elle fait son marché. Elle va chercher l'eau au puits. Elle est invitée quand il y a un mariage. C'est là. Elle rencontre les gens. Beaucoup aiment s'asseoir un moment dans sa maison. On y respire un bonheur. L'Église mariale se tient au pied de la croix. Elle ne se réfugie pas dans une forteresse ou dans une chapelle ou dans un silence prudent quand les hommes sont écrasés. Non, elle est exposée. Dans ses actes comme dans ses paroles, avec un humble courage, elle se tient aux côtés des plus petits. L'Église mariale laisse entrer le vent de Pentecôte, le vent qui pousse dehors et qui délie les langues. Et sur la place publique, elle prend la parole. Pas pour asséner une doctrine, pas pour grossir les rangs. Elle dit que la promesse est tenue, que le combat est gagné, que le dragon est terrassé à jamais. Mais voici le grand secret qu'elle ne peut que murmurer pour gagner la victoire. Dieu a dépensé des armes, c'est vrai, et nous sommes dans l'intervalle, dans le temps de l'histoire humaine, et c'est une histoire douloureuse. Pourtant, tous les soirs, à la fin des vêpres, l'Église chante le Magnificat. Car l'Église sait où sa joie demeure. Et voici, Dieu n'a pas trouvé inhabitable notre monde. Il n'a pas trouvé inhabitable les plaies du monde, la violence du monde. la méchanceté du monde. Mais c'est là qu'il nous a rejoints. Là, sur la croix, nous avons la miséricorde, le cœur ouvert de notre Dieu. C'est là, au pied de la croix, qu'un peuple est né, et c'est un peuple marial. Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, femme, voici ton fils. Et puis, il dit au disciple, voici ta mère. À partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Alors, frères et sœurs, soyons de ce peuple. Prenons Marie chez nous. Marchons avec elle. Laissons-nous accompagner par elle. Entrons avec elle dans l'humble et déchirant bonheur d'aimer et d'être aimé. Et l'Église sera dans le monde, dans notre monde. Comme le disait Thérèse de Lisieux, un cœur brillant.